Bonjour, vous écoutez le podcast Jeanne d'Arc de Rouen, le Hacker Space de Rouen.
Ah bah tu recommences parce que là, on ne croit pas là.
Bonjour, vous écoutez le podcast Rouen Jeanne d'Arc, podcast numéro 1. Non mais je me démerderai au montage.
On s'en fout.
Quand tu t'approches tout doucement, ça fait un peu au bout de la nuit là. Alors faudrait trouver un marteau, tu sais, pour ouvrir la session. Ça, le président il ouvre la session. Je déclare ouverte la session.
Donc avec nous, on a la canette de coca qui fait du bruit. On a Zigazou, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo.
Pic.
Pic. Moebius.
Aïe. Non, j'ai pas mal, hein. C'est juste que Moebius aïe.
Oui, Moebius aïe. Et Ignork qui vous parle.
Enfin, cela dit, oui, j'ai mal, j'ai un torticolis.
Donc Moebius aïe est le président de l'association Jeanne d'Arc. Je te laisse la présenter.
Ouais. Alors Jeanne d'Arc, pardon, c'est un hacker space.
Vas-y, recommence. Il va couper au montage.
Ouais.
Faut que je laisserai, hein.
Alors,
en brut.
Alors, Jeanne d'Arc, c'est un...
Jeanne d'Arc.
Ok.
Je précise que Moebius n'est pas bourré.
Alors, Jeanne d'Arc, c'est un hackerspace qui... Le premier hackerspace de Normandie, qui a été monté là maintenant depuis 2 mois.
Premier de Normandie ? On n'a pas un sur Caen ou Le Havre ?
Non.
Ah bon,
on est les premiers, on est les meilleurs.
Ouais, après il y a peut-être des trucs équivalents, hein, sur le nom avec...
Ah ouais, c'est peut-être un Fab Lab qui est au
Havre. Un Fab Lab, oui.
Alors c'est quoi la différence entre un Fab Lab et un Hackerspace ?
Un Fab Lab, ils ont tous les instruments pour que tout un chacun vienne avec un projet et puisse fabriquer de A à Z à partir de... Trouver les matériaux, par exemple, pour faire, du tissu, du plastique, du bois, du métal. Et puis après aussi, bah, par exemple, pour faire du... S'il a une carte en circuit imprimé, pour faire circuit imprimé. Enfin, ça dépend de l'orientation du projet, la taille du projet.
Plus une mutualisation matérielle et de...
Voilà, c'est ça.
Non, mais c'est très bien. Je vais pas être le seul à présenter Jeanne d'Arc.
Bah si, écoute, c'est ton bébé.
Ah oui, c'est ça, hein, qu'il démerde avec la paperasse et la présentation.
Voilà. Je me démerde avec la paperasse, après le reste.
Il ouvre la porte chaque semaine.
Contre vents et marées.
Même avec
un
porte-clés. Qu'il est
mal, qu'il soit brisé en deux ou pas.
C'est ça. Tout ce que je vais faire, c'est donner un petit peu ma définition de ce qu'est un hacker. Parce que, grosso modo, un hackerspace, c'est... C'est une association de hackers pour se rencontrer entre... Alors Zigazou se marre.
Ouais.
Je sais pas pourquoi.
Et je crois qu'il trouve qu'on est pas très terrible, hein, pas très crédible en hacker.
Non. Barf.
Quelle est ta vision du hacker?
Le hacker c'est le bidouilleur, c'est le mec qui... Quand il était petit, il aimait bien ouvrir ses jouets pour voir comment ça marchait. Et essayer de les reconstruire après. Ou voir, c'est celui qui, par exemple, quand il a compté une grosse pile de papier, mais il a détourné l'usage de la photocopieuse, il va les passer dans la photocopieuse parce qu'il y a un compteur sur la photocopieuse.
Ah
non. J'en prends à zéro.
Oui, oui.
Le hacker, c'est aussi celui qui va détourner l'usage premier du matériel.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, l'exemple que j'avais à la con, c'est quand t'as une liasse de formulaire à compter, tu les mets dans le scanner, qui a un chargeur, quoi. Tu appuies sur le bouton et généralement t'as un compteur.
Mm-hmm.
Voilà, ça va scanner les documents, c'est sûr. Ce qui sert à rien, parce que tu voulais juste les compter, mais tu voulais le chiffre à la fin, quoi.
Et
ça donc... s'appelle hacker l'imprimante, enfin le
Et donc pour toi, ça c'est un hacker.
Oui, ça c'est un hacker, c'est quelqu'un qui ose, je te garantis que tout le monde n'ose pas le faire, détourner l'usage premier de matériel.
Ouais, bon, n'ose pas le faire, tout le monde le sait pas, forcément. Ouais. Mais après, ça peut être hacké, pour moi, c'est pas forcément technique. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un outil que tu détournes de son usage premier.
Oui, voilà, il y a
tu vas essayer de pas forcément détourner, mais de trouver une utilisation qui avait été prévue à la base, mais qui a été un peu fermée. Quoi.
Parce que là, si je suis ta définition, le mec qui scanne sa tronche sur la photocopieuse, c'est un hacker.
Non, ça c'est pas la pierre. Ouais, oui. Elle a détourné l'usage du photocopieur et on est servi de photomaton.
Non mais il y a ça, il y a le fait de détourner des choses et puis il y a aussi quand même une vision assez particulière de ce que doit... Comment il y a toute une éthique autour du hacker quand même.
Ah bah c'est la différence entre hacker et pirate.
Ouais voilà.
Enfin, il y a aussi côté hacker un emmerdement minimum quoi, s'il y a un truc et là... Enfin, je veux dire, s'il y a une limitation technique qui est là juste pour me faire chier, si je peux la contourner, je la contourne, quoi.
Ouais.
Ouais, ça peut aussi être pris dans l'autre sens. Le hacker va faire quelque chose que la plupart des gens ne feraient pas parce que ça les fait chier. Mais le hacker a envie de le faire juste pour voir comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, c'est le contraire, c'est l'emmerdement au maximum.
Pour le hacker.
Oui, voilà.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que être hacker, c'est pas uniquement avoir des pratiques étranges, obscures, autour du matériel et tout ça. J'ai oublié ce que je voulais.
Allez, on va t'aider. Quel est pour toi le plus grand hacker?
Le plus grand hacker. Oui, voilà ce que je voulais dire, c'est que être hacker, c'est le mouvement hacker, c'est une sous-culture à chaque fois de milieux pour entrer à la technologie. Quoi. Au départ, c'est des gens qui utilisent l'informatique pour du modélisme, par exemple. Donc, ils utilisaient l'outil informatique pour des choses qui c'était pas prévu pour eux. Voilà. Le plus grand hacker, moi, franchement, je pense pas qu'on puisse nommer quelqu'un plus grand hacker. C'est vraiment pas une compétition, quoi. Pour moi, il y a la sous-culture des programmeurs hackers, par exemple, parce que beaucoup de programmeurs ne sont pas forcément hackers, même si peut être... les hackers programmeurs, par exemple, sont des gens qui
s'intéresser par le challenge que par le but. Vas-y, comme ça, je dirais.
Ouais. Mais pas seulement, en fait. Les hackers en programmation, c'est des gens qui utilisent certaines manières de partager le code aussi. Stallman est un des hackers qu'on va nommer le plus souvent parce que...
Je mélangerais pas le libre et le hacker en fait. Je trouve que c'est deux choses un peu à part. Ça se rejoint, mais je trouve que c'est pas tout à fait...
Stallman a quand même bien hacké les ordinateurs au MIT. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, il a été à fond.
Ouais.
Il a une partie hacker, même si aujourd'hui la partie qui prévaut, c'est la partie libriste.
Je prends une canette de coca, mais c'est juste pour qu'il y ait des bruits de fond à l'enregistrement. Voilà.
Il y a l'imprimante, c'est bon.
L'imprimante là-bas qui tourne.
Ouais. Une canette de coca en stéréo.
Si on disait le plus grand des hackers.
THX.
Est-ce que toi t'aurais une idée du plus grand hacker?
Non, c'est comme.
Passive Burn.
L'Andy Bobius, après ça dépend du domaine et tout ça. Quoi. Par exemple, j'ai plus le nom en tête, mais je pense à un truc. Je pensais aux hackers, par exemple, les premiers Mitel, les premiers gens qui faisaient les Beshbox. En fait, le début de la Beshbox, je sais pas si vous savez ce que c'est en gros, c'était à l'époque du Mitel, en gros, c'était des mecs qui venaient quand t'avais le central téléphone de la maison à l'extérieur. En fait, ils ouvraient le truc, ils mettaient deux fils et ils utilisaient la connexion pour pirater le Minitel. Donc ça, c'est le côté pas gentil du hacking.
Piratering,
voilà, là, c'est du piratage. Mais à la base du Bashbox, en gros, c'est au tout début dans les années 70 aux États-Unis ou dans les années 60. En gros, c'est un mec qui a utilisé son téléphone et qui a utilisé, je sais plus, un xylophone ou un truc. Il a utilisé juste une fréquence. Et cette fréquence-là a envoyé un signal au central téléphonique. Et ce central téléphonique, ça a envoyé un signal pour débloquer je sais plus quoi. Enfin. Mais tu vois, le mec...
C'est le premier fréquence.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils en parlaient dans
le fameux 2600 Hertz.
Je te souviens. Ils en parlaient dans le bouquin.
Je sais plus le nom, je le connaissais. Ouais, tu vois, celui-là,
Captain
Crunch. Voilà. On peut lui tirer ça. Celui-là, on pourrait considérer, si on est dans ce domaine-là, comme étant le plus grand des hackers, parce que c'est le premier, comment il a eu cette idée-là? Comment il a eu cette idée-là? Est-ce qu'il a exploré le truc?
Donc Captain Crunch, parce que justement, dans les céréales Captain Crunch, il y avait un fameux sifflet qui était cadeau,
c'est ça,
et ce sifflet-là, il correspondait, il générait justement la fameuse note à 2600 Hz.
Voilà.
Tu vois, Steve Wozniak, c'est un mec qui est vraiment dans l'esprit hacker.
Donc Wozniak, le sous-fifre de Jobs.
Le sous-fifre de Jobs,
j'y crois pas.
Redéfinis-le alors.
Attends, c'est avec Nextcloud, c'est ça?
Ah non, Wozniak, il est à l'origine d'Apple.
Bah oui.
Avec Jobs.
Ils ont commencé dans leur garage.
Voilà, Jobs, c'est le commercial, Wozniak, c'est le technicien.
Ouais.
Et.
C'est celui qui se fait avoir à la fin.
Non, t'inquiète pas.
Wozniak
est pas le plus
dans l'histoire d'Apple.
Ça va. Non, c'est Wozniak qui s'est barré. Hein. Il n'a pas été mis à la porte. Contrairement à Jobs, en 85, qui justement a été légèrement remercié. Mais donc, oui, non, Wozniak, l'Apple 1 et l'Apple 2, c'était vraiment des machines de hackers, de bidouilleurs. C'était vraiment des machines qui étaient faites pour ça. C'est-à-dire que tu avais toute la doc que tu voulais sur, sur ces machines-là. C'est des machines qui pouvaient avoir je ne sais combien de puces d'extension sur lesquelles tu pouvais venir mettre des cartes que tu pouvais en fait rajouter directement dans le boîtier de l'ordinateur. Mmh. C'était vraiment un ordinateur fait pour ça.
Ah, ce qui a été perdu avec Apple d'ailleurs.
Ce qui a été perdu avec le Visa, le Macintosh, où là tout est devenu complètement fermé.
Encore on garde quand même sur certains iMac, enfin les anciens, il y a une carte enfichable avec la possibilité d'avoir différents sockets, enfin des sockets différents par carte pour avoir par exemple un multiprocesseur sur une carte que tu vas pouvoir enficher dans la carte mère ou un simple processeur par exemple.
Oui, mais ça existait déjà sur d'autres machines.
C'est pas de là que ça vient.
C'est pas de là, non. Pour même te donner une idée, je crois que c'est les Goupil G3. Où en fait, tu achetais la base, et puis tu pouvais en fait installer une carte 6502, installer une carte Z80 ou 68000, ou 8086, pardon. Et même avant, tu avais eu le... Alors c'est un ordinateur qui n'a pas beaucoup marché chez nous, et pour cause, qui a surtout marché en Angleterre, qui s'appelle, c'est l'Acorn BBC modèle B. Mmh. Et cet ordinateur-là, en fait, il avait une interface spéciale sur laquelle tu pouvais enficher une carte qui recevait un processeur.
Ouais.
Et donc, utiliser d'autres programmes qui étaient prévus pour un processeur, pour un Z80, alors que l'Acorn BBC modèle B était fait pour du 6502. Ah, donc, oui. Tu avais déjà ces trucs-là qui étaient prévus. Donc, là-dessus, c'était pas propre à Apple. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ah voilà. Moebius, je voulais faire un petit mot sur un décès qui nous a terriblement marqué la semaine dernière.
Ouais, bah d'ailleurs je suis en train d'écrire un article sur mon blog, je sais pas si tu en as vu, je vais certainement pas le publier tout de suite.
C'est un blog ?
Bah oui, il est sur Jeanne d'Arc là.
Ok, je mettrai les liens.
Jeanne d'Arc, c'est quoi l'adresse ?
C'est moebiusry.jeannedarc.org.
Et tu l'écris comment ?
Il y a des tirés bas, je crois qu'il y a des
envois. Non, il n'y a aucun tiré bas.
Moebiusry.jeannedarc.org.
Voilà. Oui. Donc c'était le décès de...
Aaron Schwartz.
Ouais.
On n'aura jamais autant ri d'un mort. Hein.
Bon, alors, j'essaie de faire du trait.
Alors, nous sommes à la 501e voilà. Répétition
de Aaron Swart. Comme ça, on sait le prononcer.
Voilà. Donc, Aaron Swart, c'est un jeune homme, un développeur qui est mort le 11 janvier 2013 et qui, à l'âge de 14 ans, a contribué à. Aux spécifications du format RSS 1.0, enfin, le format RSS en général en fait. Il a également contribué ensuite à la création Creative Commons et est devenu ensuite un militant pour la libération de ressources scientifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a planqué un ordinateur portable au MIT. Pour aller récupérer des articles scientifiques sur les serveurs du JSTOR pour ensuite les mettre en libre accès.
Mais donc il avait accès où il est américain quand
même. Ouais.
Oui. Tu sais, c'est une université, hein, donc oui. Comme toi, tu pourrais aller
après, sur le campus. Après, il a branché au réseau, j'imagine, il a branché la première prise Internet qui a trouvé dans le placard.
Ouais, il l'a planqué dans un placard.
C'est surtout que le MIT, il y a certaines zones où tu peux pas accéder. Ouais, vu que c'est là-bas qu'il y a le lieu d'Internet.
Bah, le grand jeu des étudiants du MIT, d'ailleurs, c'est de péter tous les accès pour rentrer n'importe où. En fait. Ouais. Dans pas mal d'universités aux États-Unis, c'est comme ça. Bon, en fait, il a été poursuivi en justice par le MIT et le gouvernement américain pour avoir, entre guillemets, volé des documents, alors que non, il a fait télécharger des documents qui étaient en libre accès.
Oui, alors ce que tu disais tout à l'heure, c'était que les documents, ils étaient, entre guillemets, en libre accès, mais il y avait des droits d'auteur dessus, quoi. Enfin,
ouais, parce que comme ça marche dans beaucoup d'endroits, quand il y a des publications scientifiques comme ça, pas uniquement scientifiques d'ailleurs, c'est qu'il y a un copyright pour tout le monde, tous les travaux des étudiants sont copyrightés par l'université. Quoi.
Oui.
Voilà. Et là, dernièrement, le MIT s'est désisté, a rendu absolument tout en libre accès. Voilà. C'est toujours copyrighté, mais c'est vous pouvez y aller, vous pouvez...
Et alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quoi Creative Commons?
Ah, vas-y, tu poses la question.
Mais non, justement, si je te pose la question, c'est bien que tu y répondes.
Mais Rodriguez, nous t'en prenais.
Laissons-le finir son histoire, et après, on prendra.
Je vais le faire. Alors, Creative Commons, c'est une licence... c'est un ensemble de licences qui permettent le partage, le libre partage de documents. Je ne suis pas un spécialiste des...
Alors Creative Commons, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais je vais devenir en aide. Alors, Creative Commons, c'est en fait une licence modulable.
Ouais.
C'est-à-dire que contrairement à la plupart des autres licences, comme tu prends la NU GPL, la MIT, la License, etc., sont des licences monoblocs qui viennent où tu l'appliques complètement ou tu ne l'appliques pas.
Ouais.
Là, les licences Creative Commons, c'est justement un ensemble de modules que tu vas ajouter à une base et qui vont te permettre en fait de spécifier les caractéristiques de ta licence. C'est-à-dire que tu as un module, par exemple, paternité, qui va imposer à ceux qui utilisent ton œuvre de faire apparaître ton crédit. Tu as un module qui va imposer que ton œuvre ne soit pas utilisée dans le cadre d'une œuvre commerciale. Tu as un module qui va impliquer que ton œuvre doit être redistribuée selon la licence d'origine, etc. etc.
Ouais.
Voilà. Donc, comme il faut bien faire sa pub, Zigazoo met sur son compte Flickr des photos sous licence Creative Commons paternité.
Voilà.
Ok. Voilà.
Donc c'est www.flickr.com/photo/zigazoo76.
Et pour vous dire, Ignurk, sur son blog, donc le blog du Wick, hein, blogduwick.internet.fr, ne met pas ses contenus ni en licence libre ni en licence Creative Commons. C'est une licence blog du Wick, c'est-à-dire que si vous voulez réutiliser le contenu d'un billet pour faire un projet, etc., vous pouvez. Si c'est pour le republier, vous devez faire mieux que mon billet. C'est la seule condition. Je l'ai écrit de près comme ça.
Et pareil, les licences Creative Commons s'adressent plus à des œuvres artistiques, graphiques ou sonores qu'à des programmes informatiques.
Oui, et le rapport entre le monsieur dont on parlait et les licences Creative Commons, c'était par rapport aux documents qu'il a piqués qui sont passés
en licence. Non, c'est ce qu'il a développé.
Il a contribué à la rédaction de licence.
Il en est à l'origine.
Bref, il s'est suicidé avant son procès.
Ouais, il risquait 35 ans de prison.
Ou un tétabage lourd dans 1 million de dollars.
Ah bon ?
Il aurait eu quelques mois avec sursis, je pense.
Moi, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est la démesure, justement, sur les peines que tu peux encourir au niveau du copyright. Ouais. C'est-à-dire que techniquement, tu risques moins à renverser une personne avec ta voiture qu'à piquer des documents informatiques. C'est fort. Ouais,
après, il y a quand même peu de peines dans toutes les histoires de procès de hackers qui envoient. La plupart ont pris un peu de sursis.
Oui.
Il y en a peu quand même qui ont fait beaucoup de prison.
On est d'accord.
À part en Chine. Mais
Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ceux qui ont vraiment pris, c'est ceux qui étaient politiquement engagés.
Mais je pense que les juges sont pas si cons que ça.
Non.
On a cette chance-là encore quand même.
C'est pas une... Moi, je pense qu'il aurait été condamné.
Ouais.
Moi, je pense qu'il aurait eu sursis.
Il n'aurait pas eu 35 ans.
Oui, il aurait été condamné pour l'exemple.
Bah oui, c'est ça. Parce qu'on ne touche pas aux
élites. Si tu suis la biographie de Julian Assange, qui retrace pas mal l'histoire de hackers et surtout leur procès, la plupart, ils ont eu. Soit ils ont eu du sursis, soit 3-4 points de prison. Alors qu'ils avaient piraté la NASA, des trucs comme ça. Les juges ont bien compris que c'était des gamins qui étaient tombés sur des serveurs ouverts, quoi.
Quand on parle de pirates, de personnes qui piratent la NASA, ou qui piratent le FBI, la CIA, ou ce que tu veux, faut savoir aussi ce qu'on entend par pirater la NASA, quoi.
Oui, oui.
Parce que généralement, t'accèdes rarement depuis le site internet directement au serveur, qui contiennent les dossiers les plus...
Non, on a envoyé avant un petit verre pour affecter les ordinateurs de la NASA. Voilà.
Les gens qui piratent des sites comme ça, par exemple, les gens qui piratent le site de la NASA, faut pas se leurrer, ils le font pour deux trucs. Soit pour démontrer que ce sont des bons programmeurs, s'ils sont chopés de l'assaut, ils veulent se faire choper pour ensuite se faire engager derrière, ou alors c'est des mecs qui sont activistes politiques ou qui font de l'espionnage industriel ou des trucs comme ça, et ceux-là, ils se font pas choper. Ou alors ils ont des protections derrière. Donc, ce genre de personnes, ils n'auront jamais rien.
Les pionniers dans les années 95 jusqu'à 2000, c'était vraiment des petits, des curieux, quoi. Hein,
oui, voilà, mais c'est des gens qui voulaient démontrer leur capacité.
Non, non. Les pionniers les années 90, c'était pas il n'y avait pas que du petit gamin qui s'amusait. Il y en a eu. Ça, effectivement, oui, c'est les plus faciles à attraper, puisque généralement, ils laissent énormément de traces.
Oui, ça n'a pas les effets derrière.
Mais les gros hackers qui se sont fait choper, généralement, ça se reconvertit en boîte de sécurité pour proposer des pour proposer des firewalls et compagnie.
Il devient quoi celui qui a piraté Sony là? C'était plus son
pseudo,
qui avait fait une super chanson de rap.
Hein
oui, il y avait qui a diffusé la clé de chiffrement pour authentifier les jeux Sony en fait sur la boîte. Ouais. Et il a réussi à enfin, il a publié sur son blog la clé en fait. Il est que tout le monde pouvait appuyer derrière, faire des jeux, enfin copier des jeux qui soient validés par la console.
Ah oui,
ça marche à rien. Et donc il se tape un procès, etc. Il a fait une scène de rap. Bon, je mettrai la référence avec le billet. Où il rappait Jean-Marc Tony. En anglais, bien sûr.
Voilà. Hacker rap, pourquoi pas.
Ouais. C'est un concept.
Hacker, c'est aussi des personnes qui vont mettre à jour certaines mauvaises pratiques de société.
Ouais.
Tu as eu le cas récemment avec Nokia, où des personnes ont démontré que Nokia analysait tous tes flux HTTP, même les HTTPS,
ouais,
en se mettant entre les deux. Donc, le hacker dit qu'ils font du man in the middle, Nokia dit non, on ne fait pas de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on regardait les flux.
En parlant de ça, mon Piwik ne marche plus depuis que j'ai passé un site en HTTPS, ça m'énerve. Donc j'ai du mal à configurer un truc. Est-ce que c'est bien à cause du HTTPS qui me voit plus des pages ou...
Ton Piwik, le code JavaScript, faut juste qu'il prenne en compte le fait que tu sois en HTTPS, parce qu'effectivement les navigateurs peuvent bloquer l'appel à des pages non sécurisées depuis une page sécurisée. Mais en théorie, non, il ne va pas y avoir de...
C'est off-record, ça Parce que sinon, il faut expliquer Piwik.
Oui, Piwik, c'est un petit dispositif qui permet d'analyser les visites...
C'est un programme.
Ouais, c'est un programme, c'est un dispositif.
C'est un programme, quand même.
Dispositif, ça peut
être... Qui permet d'analyser. Ouais, mais je suis en train de me dire qu'en fait, je l'ai mal déplacé, j'ai juste fait un redirect 301. Donc oui, c'est normal, en fait.
Donc Piwik est un programme d'analyse de statistiques de fréquentation de sites web.
Voilà.
C'est un équivalent libre à Google Analytics. Avec le gros avantage, qui n'est pas négligeable...
De ne pas filer d'infos à Google.
Voilà, c'est que vous ne filez pas vos statistiques à Google. Mmh. Quand vous êtes sous Google Analytics, toutes les statistiques de visite de votre site sont enregistrées et détenues et utilisées par Google.
Tiens, en parlant de trucs qui emmerdent Google... J'ai testé un truc récemment, tout con, c'est SIC, c'est un méta-moteur de recherche pour être installé sur votre serveur web, en fait, en local. Et donc au lieu d'aller sur google.com, vous allez sur localhost/SIC et vous allez faire vos recherches. Il va aller rechercher avec Google, avec Twitter, avec ce que vous voulez.
Oh, il va creuser les recherches de plusieurs moteurs, quoi.
Ouais, voilà.
Et pourquoi ça emmerde Google?
Bah parce que...
Ça va montrer que c'est Google les meilleurs.
Ça regroupe plusieurs moteurs de recherche.
Depuis une dizaine d'années, Google, ils sont là pour harasser tout le monde et puis il n'y a plus que Google.
Mais si tu veux, l'un des atouts de Google, c'est d'être un petit peu à tous les niveaux. Hein? Donc tout ce que Google met en place, c'est principalement pour récupérer de l'info.
Ouais.
S'ils te mettent un compte Gmail en place, c'est pour pouvoir analyser tous tes mails. Ouais. S'ils te donnent des pages Google Maps, c'est pour justement analyser le trafic d'une page. Ouais. Voilà. Donc, le fait que ça passe par un intermédiaire, mais qu'il reste quand même sur ton serveur, ouais, ça ne les gêne pas tant que ça, puisque justement, ils sont capables d'analyser et de croiser les données pour retrouver, en fait, des requêtes qui apparemment ne sont pas liées directement, ouais, mais pouvoir les assembler. Ouais. Donc, au final...
Une absence de données, toujours une donnée.
Voilà. Ah. Au final, c'est... Ouais. Ouais, t'as même pas besoin d'être connecté pour que Google puisse t'identifier.
Bon, alors,
Au niveau des stats, hein, je parle. Pas au niveau de l'utilisation des ressources, ouais, mais après, au niveau des stats, tu remarqueras, bon, déjà, d'une part, il faut vraiment faire toi-même la démarche forte pour dire que je me déconnecte de mon compte Google, ouais, parce que sinon, il reste connecté pendant très longtemps.
Ouais, ouais. Non, ça pour ça, oui, bien sûr.
Ah oui,
il va garder les cookies et les traces.
Il va garder les cookies et les traces, oh, et tu te retrouves reconnecté, en fait, tu te dis, ah mince, j'avais oublié de me déconnecter.
Moi, quand je me déconnecte de Google, je fais une clique sur une pub de mon blog, Google, je te connecte, c'est moi, hein, il ne compte pas, hein, il ne compte pas le clic. Hein.
Ah oui, non mais...
voilà, j'ai fait l'expérience, ça. Hein.
Ils ne sont pas cons non plus. Non. C'est leur business model, donc... tu peux leur faire confiance, ils l'ont blindé.
Oui, j'ai bien blindé le truc. Hein. En parlant de ça d'ailleurs, j'ai
la fameuse phrase, dernièrement... c'est la fameuse phrase, quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
Je crois que c'est sur Corben que j'ai dû lire ça, il y a deux nénettes du Chaos Computer Club Allemagne qui ont publié, enfin qui ont fait une démonstration sur les gens qui utilisaient plusieurs pseudos pour protéger leurs identités.
Oui.
Après qu'analysant des styles, ouais, d'écriture,
ouais, j'ai vu,
ils arrivent à tout recentrer, ça c'est un même auteur, etc.
Ouais, sur Corben, ouais. Ouais. Mais bon, ça, il y a des méthodes. Par exemple, en fait, j'avais vu un autre lien, parce que ça m'avait intéressé. En gros, c'était un club aussi, l'équivalent du Chaos Computer. En gros, ils disaient, c'est un truc simple. Les gens se mettent avec... L'idée est simple à mettre en place, à penser, après à mettre en place.
Peut-être oui, il faut rien inspirer d'un
c'est en fait contenu, de faire en sorte d'avoir des identités interchangeables entre plusieurs membres d'un même groupe, et en fait, d'avoir une sorte de syntaxe commune. Pour que quand tu se plier okay. Pour des gens qui sont vraiment activistes, ça ils peuvent devenir invisibles. Et en fait, ils deviennent invisibles dans la masse.
Ce qu'il y avait, quoi, ouais.
Donc tu peux toujours savoir que c'est tel groupe qui a écrit, mais après le problème c'est qu'ils deviennent identifiables. Donc,
mais après, c'est pas uniquement la manière de s'exprimer, c'est aussi les sujets abordés qui peuvent être.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, les sujets
abordés, les heures.
Sur divers synonymes,
les heures que tu as publiées. Tu vois, notamment quand tu analyses toutes les données de Twitter, tu peux avoir facilement un profil de l'utilisateur en regardant justement à quelle heure il tweet.
Ouais.
Tu peux savoir si c'est un mec qui se couche tard, qui se couche tôt, s'il est dans tel ou tel pays. Enfin, c'est très facile quand tu croises. Et justement, l'un des intérêts de Google, c'est qu'ils ont une puissance informatique énorme et ça croise.
Ah oui, non, mais tu te dis, si c'est celui qui a le code admin de Google, il peut savoir tout sur une personne. En soi.
À mon avis, il n'y a pas de code admin.
Oui, à mon avis non plus. Mais c'est juste histoire de. voilà, c'est que la clé SSH admin.
C'est con, je viens de te péter ta remarque.
C'est que la clé SSH admin, voilà.
Il n'y en a pas non plus.
www.google.fr, tu sais, ça répond.
Comment ?
Si tu as dans ton terminal SSH www.google.fr, tu verras, ça répond.
Ah ouais.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Tu sais, c'est pareil pour.
Non, je sais pas.
Vas-y, on teste.
Pour le coup, des DNS et DNS publics mis par Google. C'est...
Non, il y a deux 8.8
et les DNS publics de Google.
Ouais.
Le 4.8 et puis le 8.8.4.4.
Ouais, ouais.
C'est pareil. Le principe est le même, c'est aussi de récupérer tes demandes de site pour savoir ce que tu consultes.
Ouais. Ouais.
Oui, c'est une façon de faire un stat.
D'ailleurs, il y a
d'ailleurs,
dans la région.
Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, quand tu regardes Google Analytics, tu regardes la performance de l'outil, tu peux vraiment croiser les données dans n'importe quel sens.
Oui, non, mais c'est hallucinant.
Piwik, qui est déjà bien avancé comme logiciel de stats.
Ils ont quand même réussi à brider leur truc pour que dans Google Analytics, si tu as peu de visites, tu pourrais suivre un peu l'utilisateur. Mm-hmm. Tu peux pas le faire quand même. Hein. Tu peux pas suivre un utilisateur en particulier, quoi, à Google Analytics. Mm. Ouais, ils ont réussi à anonymiser, enfin, à les présenter de façon à ce que ce soit possible.
Ils sont soucieux de notre vie privée.
Ouais, enfin, ils sont soucieux de la garder pour eux, quoi.
Ouais, ouais.
Ce serait marrant de recenser tous les outils par lesquels Google pourrait avoir de l'information sur nous.
Donc, t'as tout ce qu'on a mis en analytique sur la site et leur blog.
Si on faisait le contraire, plutôt les outils qu'ils ne peuvent pas utiliser. Plus vite, à mon avis.
Mais après, tu vois, aussi opposer cet argument qui dit qu'ils peuvent.
Sur mon site, justement, j'utilise j'utilise Piwik pour déjà éviter de leur donner toutes les stats sur toutes les pages. Et bientôt, je compte virer tout ce qui est Google Maps pour passer sur OpenStreetMap. Et donc, en faisant ça, j'ai plus d'outils Google sur mon site.
Oui, c'est vrai qu'il y a Google Maps.
Oui.
Moi, j'ai fait pire, j'ai mis le bouton G+, sur un des sites que j'ai créé. Voilà, parce que Google a analysé bien comment était... j'ai eu un petit message dans les AdSense, en fait. Hein. Mm-hmm. Comme quoi, si je mettais telle bannière, ça augmenterait de 30% mon revenu. Enfin, voilà, c'est leur estimation. Bon, ils sont pas loupés, ça a doublé, en fait, les revenus. Voilà. Alors, j'ai même emplacement, ils m'ont dit, vous mettez tel format. Enfin, voilà, le message, je sais plus combien ils disaient. Hein. Vous augmenterez de à peu près.
Donc, ça a doublé le revenu.
Ouais, ça a doublé.
Parce que, oui, on est au Hackerspace Jeanne d'Arc. On est en train d'expliquer comment passer, outrepasser Google, comment bidouiller, etc.
Il y en a qui expliquent qu'il est plus attent, ça.
Le Niark utilise Google pour se faire un petit peu d'argent de poche à la fin du mois.
Voilà, c'est à peu près ça.
Et donc, il a été parmi les premiers à se plaindre que Free bloquait la pub.
Voilà, mais grâce à une base de données que j'ai hackée, ça dit le site.
Donc voilà.
J'ai pas donné plus de détails, mais...
Quand on vient de le dire avant, dans les hackers, il y a des Wozniak et il y a des Steve Jobs. Chacun choisit son combat.
Que j'ai hacké en allant dépanner l'ordinateur d'un centre de formation.
C'est mal.
Bah, c'était une base de données, c'est un fichier Excel, mais bon.
C'est mal, oui.
Je...
Parce que nous, on est des gentils hackers.
Ouais. Et je fais de mal à personne.
Bon, et alors, la fameuse question qu'on attend tous, c'est quoi la différence entre un bon hacker et un mauvais hacker?
Bah, un bon hacker, il voit une faille, bah,
il exploite.
Un mauvais hacker, il voit une faille, bah, il exploite.
Mais bon, c'est un mauvais hacker.
Non, le bon hacker, non, le mauvais hacker, il voit une faille, il exploite. Le bon hacker, il voit une faille, il la revend.
Non, je crois que c'est
le contraire. C'est le contraire, d'accord. Il la revend au gouvernement chinois.
Non, mais le bon hacker, il voit une faille, il va voir le développeur et puis...
Il lui dit, t'as vu, t'as fait un caca, là.
Voilà.
En gros, c'est l'idée de partage. Ouais, voilà. Le bon hacker va partager sa découverte, le mauvais hacker va la garder pour lui.
Ouais. Oui, pour pouvoir l'utiliser. Ah, voilà.
Mais non, c'est pour ça que le logiciel des hackers, logiciels, enfin, des programmes.
Voilà,
et
puis oui, voilà. Hacker à sens bidouilleur, en fait, rien d'illégal.
Pas jamais.
Voilà.
Donc là, ce qui est bête pour vous, chers auditeurs, c'est que vous n'avez pas l'image. Mais donc, on a malheureusement un Moebius qui a un torticolis et qui ressemble à un petit vieux. Quoi.
Voilà.
Je peux pas tourner.
Alors qu'il n'a que 21 ans.
Moi, j'ai cru qu'il avait un balai dans le cul. Hein.
Et les choses qu'il veut de ces week-ends. Donc.
Ouais, j'arrive à retrouver qui c'est qui faisait cette chanson-là. Un balai dans le cul.
Ça ne me dit rien.
Le refrain, c'est un balai dans le cul. Ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé.
J'ai jamais très au montage sur cette chanson.
Allez, jingle. Tu l'as mis à ce moment-là, tiens.
Un balai dans le cul, ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé. Un balai dans le cul, ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé.
Jingle. Et quelle découverte cette semaine sinon?
Comment?
Vous avez fait des découvertes hallucinantes cette semaine, par exemple?
Bah, je te dis, les archives départementales.
Oui. Que t'as réussi à pirater les...
Pirater ?
T'as réussi à récupérer toutes les images du cadastre, en fait.
Voilà.
Derrière l'application Flash.
Qui sont normalement tout consultables depuis leur outil.
Désolé pour les... Il faut que j'arrête de fumer. Et tu peux expliquer...
Fumer, c'est mal.
Boire du coca, c'est mal.
C'est pas pirater.
Oui, comment t'as fait pour récupérer...
tu fais les deux, donc...
Le truc, en théorie, était en licence libre.
Ah, c'était pas en licence libre. C'est l'usager.
Libre accès.
Libre accès.
Ouais, mais copyright département.
Voilà.
Sachant que c'est de ce cadastre qui a été fait il y a des années et des années. Que
là, c'est un cadastre qui a été fait sous Napoléon, de 1806.
Ouais. Et donc, Zigazoo, ta technique, ça a été d'utiliser le cache de Firefox pour récupérer les années.
Oui, tout à fait, Rémi. Tout à fait, Niark.
Merci. Voilà, pour
et donc
bah, tu peux développer.
Il n'ose pas, bon, ouais.
Donc alors il faut savoir que sous Firefox, à chaque fois que vous tapez une requête ou que un plugin émet une requête, elle est enregistrée dans des fichiers cache de Firefox. Donc en filtrant ces fichiers avec la commande strings sous Unix, sous Linux, évidemment pour Windows, vous allez voir ailleurs. Donc avec la commande strings et ensuite un pipe avec un grep. Évidemment, là, j'ai perdu tout le monde.
Oui, non, mais sans donner la chose complète.
Eh bien, on peut extraire de tous ces fichiers les requêtes qui nous intéressent.
Tu m'as pas perdu, pardon.
Oui, moi aussi, je vois à peu près où il en est.
Si je t'avais perdu juste sur un grep, ouais, ça m'aurait fait peur.
Je suis une merde.
Tout le monde change d'un
faut pas déconner.
Et donc, c'est un moyen simple, plutôt que de passer par des outils comme des sniffers
ou autres.
Voilà, qui des fois nécessite d'avoir quand même un contrôle sur la machine. Là, avec quasiment zéro contrôle sur la machine, bah, il est possible d'extraire toutes ces requêtes. Et une fois qu'on a les requêtes, bah, on regarde ce que les requêtes retournent quand on les tape directement dans le navigateur. Puis après, on avance, et puis on voit comment ça fonctionne.
Voilà, et de la même façon sur beaucoup de jeux Flash, un MMORPG en Flash. C'est genre d'action qui va vous faire gagner des sous que vous pouvez faire qu'une fois. Si vous avez filtré le petit code PHP qu'il faut appeler pour le faire, vous le refaites. Et ça marche souvent.
Oui.
Ouais.
Mais ça, c'est tricher, c'est pas bien.
Ouais, c'est une façon d'être un cadre du MMORPG et de se faire bannir par...
Utiliser les conseils de Nierp uniquement dans le cadre de la charte d'utilisation du site web et des
configurations. Respecter les CGU, forcément.
Tout ça.
Hein, si ton logiciel en ligne te permet de faire ça juste avec des requêtes, c'est qu'il manque de petit...
Il y a beaucoup de jeux... alors bien, ça disparaît un peu, mais il y a eu une époque de jeux Flash, etc.
Mm-hmm. Parce que le Flash...
Ou derrière, ils sont qu'un ou deux développeurs, je veux dire, ils sont pas...
Oui.
Ils sont pas vite et... Ils ne sont pas tous sécurisés.
Puis, non, mais parce que
je n'imaginais pas que quelqu'un aille pirater un jeu, mais en fait, arrivé là, ça arrive tout le temps.
Ouais. Ben, j'avais développé il y a quelques temps, au moins un an ou deux. Il y avait un jeu sur Facebook, un petit jeu où il fallait cliquer sur des carrés pour faire des points. Et après, tu pouvais évidemment comparer ça avec tes amis. Et à l'époque, comme justement j'arrivais pas à faire des bons scores par rapport aux autres, j'ai été piqué au vif, j'avais développé sous Linux encore un programme qui regardait la couleur du bloc sur lequel il était et qui allait appuyer, qui positionnait la souris dessus et qui cliquait dessus, qui envoyait donc tous les... Et j'ai fait comme ça un programme donc, qui fait un score de malade parce que justement il arrive à déplacer la souris à une telle vitesse que c'est impossible de rivaliser techniquement, de rivaliser manuellement, quoi, la main.
Oui, et puis il y a des jeux où le principe c'est juste du cliquage. Moi je me souviens de la ferme à l'été. Il n'existe plus ce jeu-là.
Il y a des jeux où l'homme est plus rapide que le PC.
Où j'avais scripté.
Sous StarCraft, il y a des corps, ils sont plus rapides que l'ordinateur.
On trouvait des programmes pour scripter les mouvements de la souris et donc tu essaies de ça tourner en boucle toute la journée et voilà quoi. Enfin,
j'avais fait ça aussi avec un doodle. Il y a eu des doodles pour les Jeux Olympiques de Londres. Et il y avait un doodle, en fait, de course de 110 mètres haies. Donc, en fait, où tu devais faire du gauche-droite, et appuyer sur la barre d'espace pour sauter.
Merde, j'avais pas vu cet arbre animé, celui-là. Je le visualise. Si.
Et donc, moi, j'ai fait un programme, en fait, toujours sous Linux, et qui envoyait du gauche-droite, mais à fond la caisse. Et ce qui fait que, en fait, le bonhomme allait tellement vite... Il se prenait toutes les barrières, mais de toute façon, il pétait les scores. Parce que, évidemment, j'ai essayé au début de m'amuser à faire gauche-droite très rapidement et puis de calculer le temps pour pouvoir sauter au bon moment, ouais, etc. Et en fait, ça marchait très bien.
La pénalité était négligeable par rapport
J'avais tout droit. Mais ils n'ont pas publié un rank sur Google, ça aurait été drôle.
Mais ça m'avait bien amusé. Ouais. Effectivement, ça c'est le genre de jeu, quand j'ai des amis qui viennent me lancer des défis comme ça se fait sur Facebook et compagnie, c'est le genre de jeu, faut pas trop me chercher. Quoi. Parce que si j'y arrive pas, je développe un petit programme et puis c'est fini. N'empêche, je les avais bien lus. Alors, on va trouver ça. Hop. Je crois que c'était Plock ou un truc comme ça. Plock ou Flock. Voilà, Plock Game. Mm-hmm. Played by a robot. En fait, donc, tu...
Alors, je précise encore, hein, on est un hackerspace. Et puis, on essaie d'emmerder Google, mais Zigazoo, il a un compte YouTube.
Merci.
Ah voilà. 3, 2, 1.
De détruire le système de l'intérieur.
Voilà, donc là tu vois,
il
clique de partout. Et comme il y a des jeux de. Donc plus tu vas cliquer sur des gros blocs de couleurs.
Ouais, il y a des couleurs en derrière.
Plus tu vas gagner. Donc là voilà, si tu veux ce rythme là, c'est impossible à suivre.
Et puis c'est pas trop de la réflexion, c'est surtout de la vitesse en fait.
Voilà, bah oui, complètement. Mais t'as quand même une stratégie pour me faire du point. Pour faire du point, des combos.
Bon, il n'y a pas un site anglais où on peut parier sur ce jeu.
Non, parce que là,
vu que les Anglais peuvent parier sur tout.
Non, ça, c'est un vieux jeu.
On va faire comme Karabatic et puis on va tous parier sur...
Et en fait, au niveau du score, j'avais été ralenti par la vitesse du plugin Flash à l'époque. Parce que c'est vrai que le plugin Flash sous Linux est plus lent que le plugin Flash sous Windows.
Mais détecter les couleurs sur le PC, t'as galéré quand même.
Non. Mais non, tu détectais la couleur, tu vois, donc time out, tu vois, voilà, j'avais le rank alien.
Waouh.
Et tant dire que celui-là, pour l'avoir, tu pouvais toujours courir. Donc oui, je bidouille pas mal, tu peux justement sous Linux, t'as possibilité de prendre le contrôle de la souris. Et tu as cette possibilité aussi de pouvoir faire un get pixel pour récupérer la valeur d'un pixel à n'importe quel endroit de l'écran. Donc tu prends la valeur du pixel au milieu du...
D'accord,
ouais.
Et tu prends un pixel par quadrillage, je crois.
Voilà.
Par carré, je crois.
Voilà, tu prends un pixel par carré et puis tu as la couleur, c'est bon. Okay. Comme le damier du jeu ne bouge pas.
Bah, partage le code, tiens, mais bien, moi je regarde ça.
Faudrait que je le retrouve en plus. Ça fait déjà quelques années que je l'ai fait. Non. Ouais, ça m'amuse des trucs comme ça quand je peux pas, j'avoue, quand je peux pas battre, on va dire, à la loyale sur des jeux comme ça informatiques, si je peux développer un petit programme, c'est quand même moi qui joue.
Oui. Mais... Bah, c'est parce que quelque part, les petits jeux flash et les tâches répétitives, hein, voilà. Les actions répétitives, l'informatique, c'est automatisé, le traitement.
C'est fait pour ça.
Voilà. Donc c'est loyal de gagner en scriptant...
Tout à fait. Eh oui. Oui, j'ai un lourd passé de bidouilleur.
Oui, de hacker, de jeu flash.
De flash. Mais attends, j'ai commencé bien avant.
Il y avait quoi dans le flash?
Non mais dans le flash, attends. Moi je suis un vieux, j'ai connu l'époque de OS2. Oui, mais attends, à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas encore Internet à fond la caisse comme aujourd'hui. Et pour récupérer en fait, des logiciels, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, le mouvement libriste n'était pas encore aussi fort, il y avait ce qu'on appelle les shareware. Il y a encore des shareware.
Ouais, hein.
Mais à l'époque, c'était vraiment la grosse vague.
Il y a toujours WinZip qui est un shareware.
Oui, oui, mais tu avais plein de jeux en shareware, tu avais plein de petits programmes. Et sous OS2, tu avais un programme qui permettait de lister des fichiers. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, sous Linux, tu as le visionneur de documents, tu as tout ce que tu veux qui est gratuit d'emblée.
LS.
Non, lister le contenu des fichiers.
Ah, ok.
4, si tu préfères.
Oui, 4.
Ouais, LS, ouais. LE2S. Ouais. Et donc, je m'étais attelé à craquer, en fait, ce programme, j'avoue.
Ouais. Donc t'avais trouvé le code pour l'activer définitivement ou...
Moi, j'avais trouvé, mais alors c'était super relou parce que c'était le tout début.
Ça, c'est ça, avec un...
Avec un débogueur, avec un désassembleur.
Ouais, Je l'ai fait pendant un mois pour un... C'était pas pour un logiciel, c'était pour un... Enfin si, c'était pour un PDF, je sais plus, mais qui passait par un exe ou je sais plus quoi. Mm-hmm. Et en gros, c'était... j'avais trouvé, parce que j'avais pas réussi tout seul, quoi. Je m'étais allé voir sur un site, et en gros, on avait le droit, parce qu'en fait, la boîte qui avait créé le truc n'existait plus, elle avait disparu. Donc il n'y avait plus possibilité de... Et en gros, il n'y avait plus de suivi aucun. Et en gros, il y avait des mecs qui avaient trouvé, et avec ça, en fait, il fallait surveiller une partie du code en exa. Et en fait, il fallait le truc qui bougeait, et juste avant, il fallait recopier une partie du code exa pour le remettre, pour lui donner l'impression, en fait, être en décalage.
Alors, mais on avait le droit, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le
principe des gars. Le débugger était le plus utilisé.
Non, mais je veux dire, c'est...
J'étais jeune. Porté plainte, puisqu'il n'y avait plus personne pour défendre les droits.
Mais j'étais jeune.
Mais t'avais pas le droit quand même.
Le débugger qui a été le plus utilisé, c'est Turbo Debugger. Qui, effectivement, comparé au GNU débugger, est 100 fois plus sympa à utiliser. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des débugages...
Moi, je me souviens aussi des jeux où on pouvait ouvrir le fichier qui contenait la sauvegarde de la partie. Il fallait trouver l'endroit où était sauvegardé le pognon, etc.
C'était facile.
Pour gagner City...
C'était prévu par les développeurs d'avoir une passerelle pour les testeurs.
Toi, le programme sous OS2, la grosse difficulté, c'était un programme qui utilisait le multitâche. Donc tu avais deux processus, dont un qui surveillait l'état du premier. Et le premier, fallait savoir qu'en fait, le code était compressé et encrypté. Donc c'est-à-dire que tu ne pouvais pas taper directement comme ça se faisait. Voilà, avant, ça se faisait. Tu pouvais en fait aller taper directement dans le fichier sans même l'exécuter pour analyser le code assembleur. Là, aujourd'hui, ce programme-là, tu ne pouvais pas, puisque justement, le code était compressé et encrypté.
Hors sujet, désolé, je me permets de ça pour dériver. Dernièrement, je suis tombé en dépannant à WordPress. Moi, j'aime pas WordPress, mais voilà. Je suis tombé sur des plugins de WordPress où le mec s'était amusé à chiffrer le code PHP et avec un eval, enfin, il le déchiffrait, il le remettait dans un eval pour protéger un peu son code de son plugin. J'ai trouvé ça mignon.
De l'obfuscation.
Ouais.
C'est pas top.
Voilà, mais
parce que ça
PHP, c'est bien pour avoir du code source ouvert. Voilà, tu utilises
un et puis surtout, déjà faire un eval.
C'est moche.
Déjà, ça ralentit puisque tu fais en fait une double analyse du code pour création du bytecode. Et en plus.
Ah, des risques de faille.
Et en plus, eval, tu ne stockes pas le code généré. Avec des caches de bytecode, tu vois, du style iAccelerator ou autre, les evals ne sont pas stockés en cache. Donc à chaque fois que tu vas les exécuter, il va être à chaque fois obligé de faire un
eval. C'était un peu un plugin WordPress sur plusieurs locales, qui était comme ça. J'ai trouvé ça mignon chez la web.
L'utilisation d'evals dans PHP, je trouve ça. Au niveau sécurité, ça peut parfois poser des problèmes si t'as un argument.
Je suis avec ça. L'un des gros soucis justement de PHP. L'un des soucis justement de PHP, c'est qu'il est accessible justement à beaucoup de personnes.
Dit-il en pointant,
mais qu'il ne va pas te mettre en garde de par ses structures à toutes les failles de sécurité que tu peux créer.
Mais je défie de trouver une faille sur les sites que j'ai développés.
Oh merde!
Bon, là, alors, il va revenir en pleurant!
Je sens que je vais demander pas de ça va du travail!
500 euros!
Tu vois quand il y a une petite mise à jour qui est prévue dans la semaine qui vient?
Non, attends!
Bon, ben, ça va, déjà, tu sais quelle faille!
Non, il y a. La méthode d'authentification est très légère, mais.
J'ai déjà
vu ton code.
Oui, mais j'ai quand même relativement tout protégé contre du transversal directory, contre de l'injection SQL.
XSS.
Oui, aussi. voilà. Après, les derniers modules que j'ai... les derniers modules que j'ai développés, je ne les ai pas protégés. Donc on pourrait y accéder directement au fichier. Avec la bonne URL, sans passer par le fichier index qui est obligé d'être identifié. Mais bon.
Bon, ça va être coupé, ça. Venez me pirater.
Ça, c'est chronique, il faut que je rajoute au chaque fichier.
Non, mais Faut pas nous lancer là-dessus, Rémi. Pardon, Niark. Parce que ça, c'est le truc... en ce moment, ce qui se trouve plus souvent, c'est les failles XSS.
Ouais, mais en général, ce qui est elles vont être juste utilisées pour faire des boîtes alertes, etc. Enfin, tu vas déformer le JavaScript, quoi. Après,
c'est énorme, déjà.
Oui, mais du XSS, tu vas quand même devoir faire une URL bien spécifique.
Mmh. Et alors ?
Il faut que tu postes un lien, il faut que le mec il passe quand même par ton lien, quoi. Bah, derrière, il y a... XSS tout seul, c'est rien, hein. Faut faire un peu de spoofing, ou de... Non, pas de spoofing, de... quand tu fais un faux, enfin, voilà.
C'est tellement facile d'envoyer un faux mail... Et tu dis, t'envoies un faux mail avec ton URL bien déconnante, mais au début de l'URL, c'est toujours l'adresse du site.
Oui.
Bah, les gens cliquent, hein.
Oui, comme par hasard, il y a un petit script qui enregistre les mouvements de souris, hein, qui s'est rajouté au site.
Mouvements de souris, les touches frappées au clavier, et hop, tu récupères un mot de passe.
Ouais, bon, en général, on peut pas. JavaScript refuse d'aller sur notre URL, donc ça va. Mais...
Et alors ?
tu fais une XSS sur www.creditagricole.fr.
Rémi,
il va vouloir envoyer des données qu'à creditagricole.fr.
Pardon, Niark. J'ai du mal. Niark, donc, le problème, c'est que si c'était aussi simple que ça, on n'en ferait pas tout un foin des failles XSS.
Ouais, j'ai du mal à voir où il faut aller pour l'exploitation.
Un peu vol de cookies avec JavaScript, tu as accès aux cookies, enfin pas sur tous les navigateurs, mais tu peux. Ensuite, tu le transfères avec un iframe, dans une image, ton navigateur il va te relancer le cookie en données GET au serveur de l'attaquant, et puis.
Autre exemple, tu as déjà vu du vol d'historique de navigation en CSS ?
Le lien il est de couleurs différentes, donc.
Ah oui, pas
mal. Donc, au lieu de mettre un lien de couleur différente, tu mets un lien qui va appeler une URL pour un fond avec un code. Et donc tu sais que tel site aura été visité par la personne.
Bon, après, l'intérêt de voler l'historique d'indication,
c'est déjà assez dangereux quand même.
Faut avoir des. J'imagine que c'est exploité ces données-là, mais faut quand même. Particulier quoi. Je veux dire, moi mes visites sur YouPorn, etc., je pense pas qu'elles intéressent tout le monde. Hein.
Donc nous savons que Niark regarde YouPorn.
Ouais, le meilleur site porno, je vous le conseille tous.
Alors c'est pas dangereux pour toi parce que si on applique la même technique à un dissident d'un pays où il n'est pas accepté que tu ailles sur un site porno.
Juste piquer les informations qu'il y a dans le webmail ou comme ça arrive.
Non, t'inquiète pas, en Corée du Nord, ils ont résolu. De toute façon, tu n'as pas accès à Internet.
c'est simple. J'ai bien aimé le voyage. La tablette officielle sur le salon de Corée du Nord, où t'as une tablette comme les autres, t'as pas accès au réseau, t'as pas accès à Internet, y a pas le truc de mail, de la sauce, y a pas accès, donc t'as pas besoin. Voilà, c'est tout.
Je vais juste faire des mouvements de scrolling avec le doigt quoi, sur la tablette.
Tiens, voilà ta plaque en bas, et puis ton couteau là, et puis. Ça se rafraîchit en garant.
Donc, Niark, à mon avis, tu sous-estimes les failles de ton code.
Ouais.
C'est pour ça.
Déjà, j'ai une page en cours, mais je te mettrai au défi sur la version de test, si tu veux. sur la version de test, pas celle du travail quand même, parce que.
Donc la semaine prochaine, c'est pas essayer d'exploiter des cartes de données, c'est essayer d'exploiter un site de test.
Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être celle d'après, enfin peut-être la semaine prochaine. Je vous file l'URL du site de test pour que vous le piratiez, si vous voulez.
Non, bah,
je vous fais une démo de quoi
On n'est pas obligé d'utiliser ces sites-là, parce qu'on risque des choses. On peut tout simplement utiliser une page qui est faite par nous et...
mais là, c'est le site de test, vous pouvez... vous faites tomber, c'est pas grave.
Vaut mieux pas, et on regarde ce qu'on peut faire avec du XSS, à mon avis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec...
Il faut être clair.
Et si tu veux pas, voir comme ça, d'emblée, quoi.
T'es sûr de toi pour tes failles SQL injection ?
Oui, j'ai tout protégé. Un MySQL real escape string.
Tu es au courant qu'il y a des failles dessus ?
T'avais pour l'exploiter. Ouais, et puis j'ai mis un super parfait. Quelques des hypétables. On a des hypétables, voilà.
Putain, ça rigole pas, hein, le pare-feu chez Niara.
Ah, ouais, attention. Avec un... Comment il s'appelle le programme qui jette les logs, en fait, pour bannir un...
Fail to ban.
Oui, voilà, un fail to ban.
Ouais, sauf qu'avec ça, je peux te faire bannir tout le réseau local.
Non, parce que je l'ai mis dans mes actions, le réseau local.
Ah, bon.
Non, parce que là, je me suis déjà fait bannir tout le réseau local, en fait.
je sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas.
Donc j'étais là, ah merde, j'ai bougé mon cul jusqu'à la salle des serveurs.
Mais merde, quoi, non.
Ah si. Et sur le serveur dédié que j'ai, ça m'est arrivé plusieurs fois de patienter 10 minutes. Pour pouvoir y revenir.
Non mais quand on installe un truc comme ça, il adore.
Ça m'arrive plusieurs fois de pas pouvoir avoir mon blog, quoi. Pendant 10 minutes. Boulot. Il y a un ordre 5 et un truc totalement, l'extra était totalement développé par moi-même. Mm-hmm. Et à un moment, il y a un stagiaire qui a mis un peu les mains dedans. Voilà. Enfin, il reste plus beaucoup de code à lui quand même. Par contre, sur mon blog, enfin sur le site que j'héberge, donc il y a des trucs développés par moi-même. Il y a quelques WordPress pour prêter à des gens parce que j'aime pas WordPress, mais. Voilà. Et mon blog, c'est du .clear en multisite en fait. J'ai plusieurs blogs avec mon blog.
Mis à jour.
Mis à jour, oui. Et du coup, je l'ai mis à jour tout en même temps. Ouais. C'est le truc cool.
Parlons de.
Mais une bonne fois, il y en a en transversal et en directory. C'est même user qui a droit. C'est www.data qui a le droit sur tous les deux hosts en fait. Ouais, ça, j'ai pas protégé.
Si vous voulez avoir un blog sans base de données, il y a Totoro qui est pas mal. C'est directement des fichiers HTML ou textiles ou je sais pas quel autre on va utiliser. Directement dans un dossier, quoi. Pas de base de données. Le truc est super minimaliste, tout est. On peut ajouter facilement des plugins, quoi. Donc moi, c'est ça que j'ai sur Jeddak, en fait. C'est un blog.
Mm-hmm. Et, moi, j'aimerais bien un CMS de blog où tu déposes les. Tu fais un nouveau billet. Mm-hmm. Tu prends l'ordinateur dans Gedit ou Carwhite pour les KDE et Kate.
C'est ça.
Et tu déposes le fichier HTML sur le FTP du serveur et voilà, t'as
encore billet. Mieux, moi, j'utilise AirSync. J'ai ma copie du blog sur mon PC, quoi. Je vérifie que tout est bien, et puis ensuite je AirSync, et puis...
Bon, bah, par contre, bien sûr, tu remets pas le code pour les antennes de page, etc. Hein. Tu mets que le contenu nuit.
Oui, bon, il n'y a que ton contenu.
Pour définir la date, etc., il prend la date d'uploadage
ou... Non, c'est toi qui fais ta année, mois, jour.
D'accord, tu n'as pas dans le fichier de façon spécifique.
Ouais.
C'est sympa, c'est cool.
Et puis bah évidemment quand tu l'antidates, que tu mets une date plus tard, il ne publie pas.
Parce que les wikis, le WY, le what you see is what you get, ont tendance à m'énerver parfois, donc c'est vrai que parfois j'aimerais bien avoir un truc vraiment HTML, quoi.
Mmh. Ouais, voilà, Totoro c'est parfait, je trouve. Il est super léger, super simple.
Oui, parfois ça. Ouais. C'est comme ça.
Et tu utilises quoi en visibig généralement?
En général, j'utilise moi de Wiki, je n'utilise pas de Bizig. Sinon, celui que j'ai installé pour faire les news sur le site du boulot, c'est.
Wow!
Non, c'est un truc assez classique.
CK Editor?
Oui, voilà, c'est CK Editor. Qui est pas mal, hein, ça dit, mais.
Bah, quand tu configures correctement, oui.
Oui. Bah, il est configuré. Vous configurez comme il faut.
Tiens, en fait, t'as eu le temps de regarder un peu plus Gini?
Gini?
Ouais.
Non, j'utilise, on va dire, basiquement, mais j'ai pas regardé tout ce qui est plugin ou autre.
Ouais.
Il faut que je regarde effectivement tout ce qui est coloration syntaxique, puisque.
Ouais, non, au départ, c'est moyen.
Ouais, elle est pas GG, quoi. Celle de Gedit est plus. Enfin, je la trouve plus propre.
Ouais, t'as raison.
Et qu'est-ce que tu. Justement, on va parler de Gini.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as installé sur Gini
comme plugin.
Ouais.
Alors, Gini, c'est un éditeur de texte, si j'ai bien compris. Hein,
C'est un éditeur de texte qui a certaines fonctionnalités qui ressemblent. Enfin, qui
est beaucoup plus orienté IDE que éditeur de texte.
Mais si tu veux, si c'est tu, pareil, j'ai vite. Si tu retires tout. Si tu retires tous les plugins, non, mais c'est finalement qu'un éditeur de texte.
Si tu l'installes, si tu l'installes en standard, il est quand même orienté développement.
Ouais.
Parce qu'en standard, sans configurer quoi que ce soit, il va reconnaître justement les langages que tu édites, il va t'afficher le nom des fonctions, des classes, etc., qui sont dans tes fichiers. Donc, ça, si tu veux, pour moi, tu tapes plus dans les IDE que dans l'éditeur de texte. Parce que j'édite aussi, il peut le faire, mais il va falloir que tu installes le plugin qu'il faut.
Ouais.
Donc Gini.
Bon, Gini, moi je dirais que c'est un éditeur de texte avec des fonctionnalités de, d'IDE. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à ce que c'est vraiment un IDE. Vu que c'est surtout les plugins qui permettent de faire des choses plus poussées, quoi.
Bah, tu sais, justement, quand tu as connu les premiers IDE du type Turbo Pascal, tu as les mêmes fonctionnalités. Hein.
Ouais,
moi j'aimais bien.
C'est un IDE, on va dire simple, mais c'est un IDE. Ouais.
Tu te souviens qu'il fallait faire A 2 points égale 3. Donc pour assigner une variable, il fallait faire.
T'as oublié point virgule.
Le point virgule, hein, Turbo Pascal à la fin.
Ouais. Ah, oui. C'est un...
Et comment déclarer les variables? On faisait un dim avant? Non, c'était quoi?
Non, il fallait les faire en dehors du bloc. Ton programme qui fait begin, ton code qui est entre begin et end, et les variables sont entre le moment de la définition la déclaration de la fonction et le bloc begin.
Ouais, désolé pour leur sujet.
Oui, c'est mes. Alors là, j'ai peut-être fait une erreur.
On va essayer en quiz. Comment on déclare les variables en Visual Basic?
Dim,
ok. Comment on déclare les variables en C?
Bah, ça dépend.
Type. Variable égale valeur, point virgule, enfin le égale valeur et pour.
D'accord. Comment on déclare les variables en PHP?
On déclare pas. On les déclare pas, on les affecte, c'est tout.
Et comment déclare-t-on les variables en Java?
Non, bah, là tu sors. Tu sors.
Il n'y a pas de javaïste ici, bon d'accord.
Tu sors.
Je sais pas non plus.
Et comment on les déclare en Python?
Bah, on les déclare pas comme en PHP. Moi si, il y a quand même. On peut faire du statique, du global.
Voilà. Oui, mais comment on va acheter?
Ouais.
Et comment on les déclare en assembleur?
Dim?
Non.
data?
Non, var, nana et.
Non, on sera dans le bloc data, on va déclarer tout ça. Non?
J'ai jamais utilisé l'assembleur. Enfin, à part du Google Scan.
Moi, je vais utiliser rapidement.
DD, DQ, DB. DB pour du byte, DD pour du double word, DW pour des mots 16 bits. Des Q pour du quad.
En Q basique, on faisait comment d'ailleurs? Il n'y a pas un truc comme quoi
Dim.
Je parle du basique de l'Amstrad. Hein.
Non, alors, le Q basique, c'est pas le basique de l'Amstrad.
Oui, c'est vrai, mais le basique.
Alors là, je vais sortir ma science, le basique de l'Amstrad, c'est le basique locomotive.
Le basique locomotive, oups. Comment déclarer en fait les variables dedans?
En basique Amstrad,
ouais.
Tu déclares pas ta fact.
D'accord.
Et en fait, en basique Amstrad, les variables qui se terminent par un dollar sont forcément des chaînes de caractères. Et les variables qui ne se terminent pas par des dollars sont des nombres.
Ah ouais, ça y est, c'était ça qui avait une petite... Ouais. J'essaie de m'en rappeler.
Et tu déclarais les tableaux avec la commande dim.
Et il y avait déjà le tableau en basic en ça.
Oui, Rémi, quand même.
Ouais, je me souviens plus, ouais.
Oui, c'était les tableaux à l'époque. Hein. Bon, déjà, dans 64 kilooctets, il fallait pas espérer faire un tableau de 30 000 entrées.
Quand j'ai bidouillé dans ça, j'avais 7 ans, quoi. Enfin, un truc comme ça. Donc, c'est clair, c'était le genre de truc. Je me suis bien amusé avec, mais j'ai un peu oublié.
Non, tu faisais pas beaucoup d'entrées dans le tableau. Hein.
Oui.
Je sais plus, je crois, si je suis pas sûr, mais il me semble que le Basic Amstrad gérait les tableaux à deux dimensions. Quoique, pas certain. Je suis pas certain.
Je suis en train de chercher un... J'ai en train de chercher un cas où j'avais fait un tableau à 3 ou 4 dimensions.
Non, par contre, en Basic Amstrad, tu faisais data. Quand tu voulais faire des gros blocs de données, data. Et puis tu balançais les données. Donc on parlait de.
On parlait des failles XSS. Non, il y a très longtemps.
On avait dévié après.
Il y en a dévié sur un truc qui est intéressant. Mais
oui, les variables.
Les variables.
Tiens, on va scale.
Non, là tu sors. J'ai essayé de me mettre à Haskell, j'ai pas réussi à finir le tutoriel.
Ah,
C'est des concepts pour moi qui sont beaucoup trop
mathématiques
et puis surtout qui tranchent complètement radicalement avec les bases de programmation habituelles.
C'est clair, complètement. C'est idle, enfin c'est ça, idle, c'est un langage fainéant.
Ouais.
Alors, et on a pas demandé en JavaScript, hein, en fait, comment on déclare la variable.
On déclare en JavaScript?
Les variables globales, ouais. Enfin, si tu veux assurer une portabilité des variables, t'as var.
Non, c'est pas comme Java.
Hein? Non, il n'y a pas de type. Non, bah non, on déclare pas.
Ça dépend si tu veux qu'elle soit portée ou pas.
Alors, je vous dirai pas comment on déclare en COBOL. Ça, COBOL, ça fait partie des langages qui sont jamais passés. J'ai eu des cours en DUT.
Mais le COBOL, c'était pas le langage en Star Trek?
Non, je pense
ah
pas.
Non, c'est non.
On m'a fait une formation, après, quand j'ai commencé à bosser, on m'a fait une formation encore sur le COBOL. Ça passe pas. C'est
dans Battlestar Galactica, je crois que les kobolds, c'est une des populations, un truc comme ça, ou c'est les anciens.
Mais ça n'a aucun rapport, là.
Oui, je sais, ça n'a aucun rapport. C'est ça, on va dire.
Quelle version de Battlestar Galactica?
La dernière, la version 2005. Enfin, ouais. Ou 2004, je sais plus.
En logo?
Jamais fait.
J'ai fait du logo sur Amstrad, encore.
Non, moi,
qu'est-ce que j'ai fait comme langage à la con? J'ai fait du prologue. Mais pareil, en fait, à l'IUT. Papa, oui, à l'IUT, et puis en fac après.
Et aussi, vous, c'était bizarre. Ah, vous,
du Lisp.
Ah, oui, j'en ai fait. Je me rappelle plus.
Oui, mais là, tu. Le Lisp, tu satures très vite à un moment donné avec les parenthèses.
Mmh. Ouais, non.
C'est à un moment donné.
Ouais, non, mais j'avoue, je programmais en Lisp pour rigoler, quoi.
Et tu vois. Mais tu programmes encore en Lisp, enfin en Scheme. Pour GIMP, donc, puisque c'est le langage en fait de script qui est par défaut. Mais il y a un truc qu'il faut vraiment faire en Lisp qui est primordial pour comprendre, c'est de l'indentation et vraiment avoir des règles strictes d'écriture de code.
Ouais, merci,
parce que si tu loupes ça, c'est fini. C'est un code qui est imbitable.
Oui, avec des parenthèses.
Voilà. Des parenthèses de partout. Si tu fais pas de l'indentation, si tu fais pas de la...
C'était quoi le nom des codes horribles quand on parlait la semaine dernière?
IOCC.
Ouais,
International Obfuscation Sea Contest.
Voilà, et il y avait des langages de programmation assez terribles où tu programmes avec les espaces et tabulations, quoi.
Oui, alors ça, c'est d'autres langages. Ça, c'est... comment dirais-je? C'est quoi ces langages?
Je ne sais plus où on les avait retrouvés.
Mais moi, je te parlais effectivement du langage C.
Mm-hmm. Ah oui, ok.
Où là, effectivement, le but du concours, c'était de faire un programme qui fasse quelque chose.
Mais qui soit super lisible.
Mais qui soit incompréhensible. Mmh. Et effectivement, j'ai regardé des one-liners, donc juste des blocs de code en une ligne. Et même quand tu essaies de les décortiquer, t'as du mal à comprendre.
Voilà. Qui éventuellement un algorithme récursif, etc., pour mieux compliquer, ou qui prennent des trucs à l'envers.
Tu veux, la récursivité en elle-même, c'est pas bien compliqué, hein. Mais quand tu rajoutes plein de conneries par derrière, avec des chiffrements à la con... Qu'est-ce qu'il y a encore comme langage? J'ai pas fait de ADA.
Alors j'ai regardé, tiens, l'UA vite fait, pour voir si vraiment j'ai mérité ou pas.
Il y a le script qu'on n'a pas parlé, hein. Il y a le bash, le VBScript, le shell.
Alors, VBScript, tu sors.
Oui, hein? Mais c'est histoire de dire. qui a ses fonctionnalités quand tu es dans un Active Directory? Le VBScript, il a les composants qui permettent d'attaquer le contrôleur de domaine à raison des PC. Enfin, pour les administrateurs réseau Windows, ça peut être pratique.
Disons que l'intérêt justement d'un langage de script, pour moi, enfin surtout en shell, c'est de pouvoir utiliser des commandes du système.
Oui.
C'est pas d'intégrer ces commandes-là dans le langage.
Enfin, je pensais aussi au PowerShell, en fait, très Windows. Hein. Mm-hmm. C'est un langage fait pour les administrateurs système sur un réseau Microsoft. C'est que ça.
Quand tu te rends compte, je sais pas, on s'est tapé pendant plus de 15 ans le commande.com, avec le batch, le langage batch à la con. Il a fallu attendre le temps, hein, avant d'avoir un langage de script pour le shell.
Je ne l'ai pas trop utilisé, j'ai dû écrire un ou deux scripts avec, mm-hmm. Mais il me semble assez cohérent quand même. Pour,
Ce que je t'ai dit, c'est quand même malheureux, quoi.
Oui, c'est clair, il a fallu attendre longtemps. Hein.
Sous DOS, il y avait 4 DOS, ou 4 DOS, qui était justement une extension du command.com, qui te rajoutait plein de fonctionnalités comme pushd ou popd. Pour sauvegarder la position actuelle dans un répertoire.
Chers auditeurs, Gnork va chercher les toilettes.
Qui est revenu.
Et Gnarm ne s'est pas lavé les mains en sortant des toilettes. Alors faut que tout le monde dise ensemble au revoir les auditeurs. 1, 2, 3.
Au revoir les auditeurs.
Ça fait très crétin quand même.